Bon, notre prince aujourd'hui, Thierry Bulan, je cède la parole à Thierry Bulan.
Bonjour frères et sœurs de Marseille. Je ne vais pas redire mon nom, ni dire d'où je viens, maintenant vous le savez, je revois avec beaucoup de plaisir des visages déjà connus, rencontrés au cours de quelques rencontres, notamment la dernière rencontre qui a eu lieu à Aix-en-Provence, la rencontre Vitalité, mais aussi des villages avignonnais que j'ai connus, ou que je connais maintenant, ou que j'ai connus autrefois, et puis des collègues. J'ai tout de suite remarqué combien cette salle était belle, agréable, douce dans son éclairage. Alors je l'avais connue avant les travaux, hein. Donc je trouve que vous avez vraiment bien travaillé et que c'était vraiment très agréable d'être ici. Néanmoins, je me dis que pour le Seigneur, la beauté d'une église, elle est moins dans ses murs, même beaux, que dans la présence de chacun, chacune d'entre vous ce matin. Dans mon pays breton, on trouve bien des choses, et on y trouve en particulier des menhirs, des dolmens, des cairns. Et chacune de ces pierres, pierres levées, pierres dressées, pierres assemblées, forment pour les Bretons les témoignages d'histoires, parfois connues, parfois inconnues. Mais chacune des pierres qui est présente sur le terrain nous dit « quelque chose s'est passé là, quelque chose a compté là ». Les pierres levées sont depuis longtemps, et y compris dans la Bible, des formes de des témoignages d'histoire, des témoignages de foi, des témoignages de vie. Elles servent à célébrer quelque chose qui s'est passé ou à le commémorer, mais elles cherchent aussi à servir la mémoire de ceux qui sont venus après. Elles nous enseignent sur la vie de ceux qui nous ont précédés. Et l'Écriture contient quelques textes sur l'usage symbolique des pierres. Et ce matin, il me semblait intéressant de prendre une des métaphores les plus connues et en même temps les plus étranges qui soient dans l'Écriture. Elle se trouve dans la première lettre de Pierre et je vous invite à la lire avec moi. Le texte va s'afficher, c'est au verset 4 à 10. Pierre écrit... Si, il l'a écrit, voilà. Pierre écrit... Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Car voici ce qu'on trouve dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais, jamais pris de honte. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les gens sans foi, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute. Ils s'y achoppent en refusant d'obéir à la parole. C'est aussi à cela qu'ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Jusqu'ici la parole de Dieu. Et ici peut commencer notre méditation, notre réflexion et pourquoi pas notre prière. Il est question de pierre vivante. Quand j'entends ce terme, je pense en particulier à Goethe, le poète allemand qui avait dit qu'on peut quand même construire quelque chose de beau avec des cailloux trouvés sur le chemin, ou des pierres trouvées sur le chemin. Et il est question de pierre vivante. D'abord, Christ présenté comme pierre vivante. Quelquefois, Pierre prend des raccourcis et il synthétise des textes de l'Ancien Testament. Et c'est ce qu'il fait ici, dans sa lettre. Il va, par exemple, s'appuyer sur le prophète Ésaïe, au chapitre 28 et le verset 16, qui dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vais placer en Sion une pierre qui va servir de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur qui sert de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. » Et puis, il prend également le psaume 118, il le cite, « La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale, la pierre d'angle. » Et c'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Rien qu'en écoutant ça, je me dis, mais est-ce qu'on considère encore que le Seigneur Jésus-Christ est un prodige pour nous? Un prodige de Dieu? Est-ce qu'on y pense? Sion, il y a de multiples interprétations. Retenons que c'est le lieu de la présence et le lieu où Dieu déverse ses bénédictions. C'est le but ultime dans l'Écriture vers lequel marche son peuple. C'est là, dans ce lieu de bénédiction, que Dieu pose la première pierre, une pierre éprouvée, une pierre testée. Et elle a une qualité incomparable, une qualité au-delà de tout, cette pierre. C'est qu'elle est solide. Elle peut soutenir tout l'édifice. Nous comprenons bien qu'il s'agit de l'édifice que forme le peuple de Dieu. Avons-nous conscience du nombre de personnes que ça peut représenter, non seulement aujourd'hui, mais au travers des âges? Le verset 6 dit que « Quiconque se repose sur cette pierre ne sera plus motivé par la peur. » La foi ne chancelle plus quand elle s'appuie sur celui qui est toujours fidèle. Toute la maison du Père repose sur le Fils. Et dans sa maisonnée, nul accès au Père sans passer par le Fils. Incomparable, le Fils incontournable. Mais le troisième texte sur lequel Pierre s'appuie nous vient aussi du prophète Ésaïe. Il se trouve au chapitre 8 et au verset 14. Et ce texte dit « Le Seigneur est un sanctuaire, mais il sera aussi une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher. » Et voilà une ombre dans ce beau paysage du temple bâti par le Seigneur. Une ombre terrible, la portée terrible du rejet du Christ. Ceux qui ne reçoivent pas la pierre pour ce qu'elle est seront confirmés dans la chute. Où que leurs pas les mènent, ils trébucheront toujours sur le Christ. Cette pierre vivante, cette pierre si forte, si nécessaire, porte aussi en creux, nous le voyons, une condamnation. Et nous réjouir de cette pierre d'angle qui est pour nous, Jésus-Christ, ne devrait jamais nous faire oublier cette réalité. Des hommes et des femmes trébuchent sur cette pierre. Des hommes et des femmes autour de nous se perdent loin du Père. Mais voilà donc, cette pierre est là. Elle est bien scellée par Dieu comme une solide fondation et elle est prête surtout pour la convergence de toutes les autres pierres. Avec Dieu, tout est question de confiance. Si nous nous appuyons sur le Christ avec confiance, nous n'avons à craindre ni la folie des hommes, ni les sournoiseries du mal. Celui qui s'appuie sur elle ne sera plus gagné par la peur. Il est la pierre angulaire sur laquelle un bâtiment tout entier se construit, un bâtiment qui traverse les siècles, la pierre qui ancre. Il est la pierre qui donne son orientation à tout l'édifice qu'elle soutient. Un édifice tourné vers le Père. Christ est la pierre vivante, la pierre première, mais la pierre primordiale. Mais Pierre nous dit, approchez-vous de lui. Je remarque que ce culte a été commencé par un verset aussi qui disait, venez, allons, goûtons, comme le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, dit Pierre, devenez à votre tour des pierres vivantes. Prenez votre place dans l'édifice de Dieu. Vous l'aurez remarqué, Pierre juxtapose deux mots qui semblent s'opposer. On appelle ça comment ? Un oxymorone, je crois. Hein ? Voilà. Une pierre vivante, un minéral froid, un peu anguleux parfois, dur, résistant, apparemment dépourvu de vie. Et pourtant, quand il s'agit de pierre vivante, alors nous comprenons que cette pierre contient la plénitude de la vie, c'est-à-dire la capacité de transmettre la vie reçue. Voilà ce qu'est le vivant, le développement. Il y a une histoire, moi je la trouve un peu célèbre parce que je l'ai entendue plusieurs fois, mais je ne sais pas pour vous, à propos d'un roi qui visitait un autre roi dans la ville de Sparte, en Grèce. Et le roi de Sparte vantait la solidité de sa cité à ce roi en visite, trouvait que ses murs étaient redoutables. Mais le roi qui était en visite regardait autour et ne voyait aucun mur autour de la ville de Sparte. Il lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vos murs sont invisibles ? Alors le roi de Sparte s'est tourné et il a fait avancer sa garde. Et il a dit, face à ces soldats qui avaient le regard déterminé qu'on peut imaginer, voilà mes murs. Chacun de ces hommes en est une pierre. Nous pouvons, nous devons être chacun une pierre vivante. À l'image du Christ, une pierre solide sur laquelle les autres pierres peuvent venir s'appuyer. Et s'appuyer dans la confiance. Vivante comme Christ est vivant pour l'éternité. Et je crois encore une fois que dans le regard de Dieu, la beauté du temple naît de l'assemblage de pierres qui sont de même qualité que la pierre du fondement. Il m'est arrivé de voir des constructions faites de parpaings et de briques, et tant qu'il n'y a pas l'enduit, je trouve ça assez laid. Mais là, quand on parle de cet édifice, on attend, et je crois que le Père attend, des pierres qui désirent et qui veulent et qui agissent de telle manière d'être des pierres vivantes, qui voudraient ou qui s'efforcent d'être de la même qualité que la pierre angulaire. En tout cas, des pierres qui veulent faire assemblage avec les autres. La valeur de ces pierres est éprouvée par leur histoire, par le ravage des hommes aussi, par le ravage du temps. Il arrivera que ces pierres, et il arrive encore aujourd'hui, que ces pierres soient en quelque sorte méprisées. Des pierres qui sont parfois, en certains lieux, frappées d'inutilité sociale, comme s'il était débile d'être chrétien. Mais ces pierres-là sont chéries par Dieu. Et ensemble, à la manière des soldats de Sparte, nous formons un rempart de foi contre ceux qui éprouvent. Au premier chapitre de sa lettre, Pierre écrit « Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour ? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve, elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Alors être une pierre vivante, c'est être une pierre éprouvée, une pierre taillée, une pierre ajustée par l'Esprit-Saint pour devenir toujours plus résistante et s'adapter toujours mieux à l'ensemble de l'édifice. Chaque pierre, bien incorporée à la place que Dieu lui a assignée, forme un tout, un ensemble qui est la maison de l'Esprit-Saint. Une communauté de prêtres, dit Pierre, dont le but est juste d'offrir des sacrifices spirituels, d'exposer des actes que Dieu approuve à cause de Jésus-Christ. Et je vous invite encore à nous approcher d'un peu plus près de cet édifice maintenant, si vous avez la vision d'ensemble. Une maison spirituelle, une maison de prêtres, un saint sacerdoce, dit Pierre. Dans l'ancienne alliance, vous le savez, le temple, c'était le lieu de la résidence de Dieu. Et maintenant, Dieu vit au sein même de son peuple, acquis par Christ et acquis à la cause du Christ. Paul disait, nous sommes tous le temple de Dieu, vivant. Dieu lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Nous n'étions pas son peuple, Pierre le rappelle, mais il nous a rassemblés. Benjamin introduisait le culte en disant, nous venons des quatre coins de l'horizon et me tournant vers cette assemblée, je le vérifie et c'est beau. Et c'est beau. Chacun, chacune est beau et belle dans cet édifice. Le mot utilisé pour maison est à la fois le lieu qu'on habite, mais aussi la maisonnée. Le temple que le grand architecte a conçu est une construction qui est faite par Dieu, construite par Dieu, mais faite, assemblée d'hommes, de femmes. Des hommes et des femmes qui sont aussi morts que peut l'être une pierre, et aussi vivants et ressuscités que peut l'être Christ. Voilà ce que nous sommes. C'est une communauté animée, rendue vivante par l'Esprit Saint. L'Église est une résidence divine. Nous sommes ensemble une résidence divine. Nous formons ensemble un peuple de prêtres, des adorateurs. Et bien évidemment, Dieu ne veut pas que des adorateurs du dimanche, mais des adorateurs en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Et l'adoration ne se limite pas à quelques prières ou quelques chants. Elle est confiance et obéissance. Dieu nous rassemble parce qu'il veut rendre sa présence manifeste parmi les hommes. Il veut démontrer par notre vie communautaire que son intervention dans les vies humaines ne produit que des effets positifs. L'intervention de Dieu dans nos vies ne produit que des effets positifs. S'il est quelque effet négatif dans notre vie, c'est certainement pas le Seigneur qui en est la cause. L'extraordinaire, la prodigieuse action de Dieu devrait être visible, devrait être perçue par l'extérieur. Rien qu'en voyant vivre l'Église, le monde devrait comprendre que Dieu seul est capable de faire passer des hommes des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité, de la difformité à la droiture. Voilà ce que le monde autour de nous, autour de cette Église, devrait pouvoir voir, distinguer. De la solidarité au lieu de l'égoïsme, de la vie au lieu de la mort, de l'unité au lieu des disputes, toujours mesquines. Lumière et splendeur, l'amour d'une communauté humaine, la consécration joyeuse de prêtres qui ne ressemblent pas à des prêtres. Voilà, me semble-t-il, à quoi Paul pouvait penser quand il écrivait, c'est aux Romains, dans le chapitre 12, « Je vous invite, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps, non pas vos corps, votre corps, celui que vous formez ensemble comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu, ce sera là de votre part un culte spirituel. Ensemble. Voilà comment Dieu, me semble-t-il, a rêvé et conçu son Église. Et il nous faut nous aussi la désirer aussi belle si nous voulons que le plus grand nombre se tourne vers le Seigneur. Mettons autant d'entrain à partager l'Évangile et surtout à le vivre que nous en avons mis à repeindre ces murs et à rendre cette salle belle. En conclusion, je ne m'attarderai que sur quelques aspects liés à la vie d'Église. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une pierre isolée dans son coin, ça ne fait pas une cathédrale. C'est basique ce que je dis. Nul chrétien n'est une île. Oh, j'emprunte la formule à Gandhi, je crois. Quelle vie une pierre isolée pourrait-elle transmettre ? À qui, puisqu'elle n'est reliée à personne ? Et encore moins à la pierre angulaire de l'édifice, même si elle vit dans cette illusion. Quelle vie une pierre isolée pourrait-elle recevoir, elle qui n'est reliée à personne ? De quelle vie témoignerait cette pierre isolée ? Quelle envie ferait-elle naître ? Qui a envie d'être un caillou sur le bord du chemin ? Le regard s'émerveille davantage devant les beaux édifices. Deuxième considération, c'est que l'esprit reçu de Jésus-Christ nous renouvelle et nous recrée sans cesse. Approchez-vous de lui, dit Pierre. La conjugaison originale du verbe souligne un mouvement permanent. Il ne s'agit pas de s'approcher une fois et puis de repartir et... Non, un mouvement permanent. Approchez-vous en permanence de lui. Nous pourrions y retrouver l'idée du cep et des sarments. C'est ça la vie avec Christ. Et c'est ça la vie en Christ. Quand nous recherchons à construire selon Christ, à la manière de Christ, à la manière de sa personne, à la manière de ses enseignements, nous sommes véritablement des pierres vivantes qui œuvrent ensemble sur un chantier qui ne sera jamais achevé. Je suppose qu'ici, quand vous avez refait la salle, vous aviez sans doute envie que le chantier soit vite terminé pour enfin en profiter. Frères et sœurs, dans l'Église, ça ne marche pas comme ça. Nous sommes sur un chantier qui restera inachevé jusqu'au retour du Seigneur. Mais c'est un chantier qui est fait de nombreuses interactions. Un chantier qui est fait de nombreuses complémentarités. Dieu vous a assemblés dans cette église locale de Marseille, Gambetta. Il vous connaît chacun. Il sait à la fois quelles sont vos pauvretés, il sait quelles sont vos richesses. Il sait les dons qu'il a faits à chacun et il sait que chacun peut contribuer à la vie de cet édifice. À chacun de savoir comment il peut y prendre part. Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes reliés les uns aux autres dans le corps de Christ. Notre Seigneur, la pierre de fondation, est vivant pour toujours. Et s'il nous supporte parfois, et je crois qu'il doit nous supporter, je crois encore plus qu'il nous soutient, tous, fermement, bien ensemble. Il est donc essentiel de nous interroger lorsque nous élaborons des plans et des projets ensemble. Est-ce que nous échafaudons nos projets ensemble sur la bonne pierre ? Ou est-ce que nous le faisons sur la base de nos sagesses, de nos intuitions, de nos expériences ? À quel moment un conseil d'église, dans un projet, s'arrête pour prier, pour demander « Seigneur, quelle est véritablement ta volonté ? Aide-nous à la chercher ? » Ou est-ce que nous enquillons nos réunions les unes derrière les autres, en faisant preuve de sagesse, je le crois ? Mais où est la place du Seigneur ? Où est la pierre angulaire de ce projet ? Approchons-nous de lui ensemble, dit Pierre. Adorons ensemble. Prions ensemble. Apprenons ensemble. Soutenons ensemble la mission de Dieu dans notre temps, de toute notre énergie, de toutes nos ressources et de toutes les ressources que le Seigneur nous donne. Et puisse l'Esprit Saint aider chacun à toujours mieux comprendre comment, en servant le Seigneur ensemble, nous pourrons éclairer et, si possible, éblouir comment nous pourrons témoigner et, si possible, convaincre tous ceux, toutes celles qui sont autour de nous. Il en est temps, partout. Il en est temps ici, dans votre environnement immédiat, Marseille-Gambetta. Alors ce texte nous a placés, me semble-t-il, dans une bonne perspective pour évoquer vitalité. Cet après-midi, nous parlerons de l'Église fondée sur Jésus, l'Église composée de pierres vivantes, l'Église habitée par le souffle de Dieu. Nous parlerons finalement de l'Église évangélique de Marseille-Gambetta. Amen.